Donc le gars, il avait sur son compte associé un endettement, je crois, de 100 000 euros pour du maraîchage au bout de 6 mois. Et donc, quand j'ai signé le GAEC, j'ai signé pour avoir un tiers de ça sur mon compte associé. Et en fait, j'ai fait une erreur. Quand tu sais pas, tu sais pas. J'ai dépassé en chiffre d'affaires en auto-entreprise 36 000 et des poussières. Et là, bim, TVA, moins 50% au total, en gros, sur le chiffre d'affaires. Donc, c'était un T3. T'avais notre chambre, t'avais le salon et t'avais une autre chambre que ma compagne Valente a gentiment accepté qu'on la transforme en champignonnière,
énorme,
tu vois.
Énorme.
J'avais le petit labo, j'avais une chambre de fructification. Enfin bref, je faisais tout là-dedans.
Donc là, c'est clair, t'es démasqué, Andreas. Combien de variétés tu commercialises aujourd'hui ?
Pleurote, rentable. Folio du peuplier, rentable.
Ouais, très très bon.
Shiitake, rentable. Crinière de lion, rentable. Black Pearl, rentable. Chestnuts, rentable. Et là, ce que je suis en train d'instaurer et que je sais qu'il est rentable, c'est la Mori. Et aujourd'hui, pour moi, la liberté, je considère que c'est le fait de choisir tes contraintes, tu vois. La récolte des champignons, si tu veux qu'ils soient de très bonne qualité, c'est tous les jours, donc c'est le week-end aussi. Et c'est un choix. J'ai choisi ce que je m'impose. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Chien d'Ans. Je suis toujours avec Francky. Comment ça va, Franck ?
Eh bien, ça va très bien, Andreas. On est en place, hein ? On est pas mal cette semaine.
Oui, on est pas mal. Donc, si jamais, hein, vous pouvez nous écouter également sur les autres plateformes, si vous voulez pas la vidéo YouTube, etc. Enfin, voilà. Petit mot, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, tout ça, ça roule. Donc, Franck, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? De quoi on va parler ?
Alors, nous allons parler aujourd'hui de toi, voilà, puisque c'est le match retour. Le premier épisode, c'était ma présentation, mon parcours. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Andreas, 34 ans, qui a lancé son projet d'entreprise agricole et qui va nous raconter son parcours, sa vie, son œuvre. Et on l'espère nous apprendre plein de belles choses.
Oui, une sacrée œuvre plein de brouillon, alors. Hein,
parce que... ça fait partie de l'apprentissage de la vie et de la création d'entreprise.
Clairement.
On débute donc la première introduction, c'est un petit peu te raconter, te présenter Viteuf, ton petit CV Express. Voilà, 34 ans, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici il y a 2 ans pour monter la champignonnière ? Qu'est-ce qui a amené un petit peu ce projet-là ? Et puis on va le décortiquer un peu dans le détail.
À fond. Écoute, du coup, moi, ça fait 5, 6, 7, 7 ans. 7 ans que j'essaie de faire des projets agricoles. Donc, j'ai commencé avec plusieurs projets de ferme. Donc, un projet de ferme où je me suis direct associé en GAEC avec des gens que je ne connaissais pas vraiment, mais j'étais très motivé pour faire de l'agricole. Et ça n'a pas fonctionné du tout, parce que pas de business plan, un énorme endettement. Je crois que donc le gars, il avait sur son compte associé un endettement, je crois, de 100 000 euros pour du maraîchage au bout de 6 mois. Et donc, quand j'ai signé le GAEC, j'ai signé pour avoir un tiers de ça sur mon compte associé. Bon, heureusement, je suis sorti genre deux mois après. Et bon, ça s'est bien terminé. C'était ma première expérience, mais elle était très basée, tu sais, sur le côté agricole, comme la deuxième, liberté, tu vois, genre, ah, je suis tranquille dans mon champ, je fais mes petits légumes et tout, que sur le côté vraiment business. Ok, comment, qu'est-ce qu'on fait, combien il rentre, combien il ressort, combien il reste à
oui,
la
fin. C'est-à-dire que tu es rentré un petit peu dans un projet agricole en direct, donc tu as fait les études à l'université, c'est ça?
Ouais.
Donc, tu as fini avec quoi,
c'était une licence de BOP, biologie des organismes, population et écosystèmes. Ouais. Mais en fait, je l'ai redoublé et je l'ai jamais passé, en fait.
D'accord. Donc, finalement, tu t'es retrouvé dans une espèce d'orientation, de formation sans forcément de précision.
En fait, moi, je voulais faire de l'agriculture au départ.
Oui, le fond, l'ADN.
Mon grand-père était agriculteur,
voilà,
un peu même forcé à l'agriculture, tu vois, c'était genre mon arrière-grand-père s'est installé en France, il a monté une ferme, donc voilà, en élevage laitier, etc. Ouais. Et mon grand-père a dû reprendre. Tu vois.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était le schéma traditionnel de transmission.
Mais en vrai, il aurait pu... Enfin, tu vois, lui, il avait commencé une carrière de rugby au Stade Toulousain et son père lui a dit non, non, tu vas reprendre la ferme et c'est tout. C'est comme ça. Et donc, lui, il est resté dans l'agriculture, pas par amour, tu vois, comme moi, je le suis aujourd'hui. Mmh. Donc, c'était pas terrible. Et donc, ça a sauté une génération. Mon père n'a pas fait d'agriculture. Mon oncle a repris l'agricole.
Donc, le frère de ton père.
Le frère de mon père, exactement, qui, lui aussi, continue les vaches laitières. Et ça s'est arrêté là. Moi, je voulais faire des études agricoles. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je pense que mes parents m'ont plus ou moins dissuadé. Ils m'ont dit « Ok, t'aimes bien les sciences de la vie, etc. Tu vas aller dans cette licence qui ne m'a donné aucune sortie, qui m'a donné un bagage. Après, on le verra pour les champignons, mais pour l'agriculture, ça m'a pas porté grand-chose. »
Oui, parce que si on rappelle un petit peu le parcours, là, c'est que ça, on aura l'occasion dans les podcasts d'en parler. J'avais fait une allusion sur qui on est vraiment, sa vraie personnalité au départ, depuis gamin, et ensuite comment on développe sa personnalité, et en fonction de son milieu familial, en fonction des rencontres, en fonction de plein de choses. Toi, finalement, tes études, malgré tout, même si ce n'était pas agricole, elles étaient orientées scientifiques.
Ouais.
Et au final, avec la méthode MBTI, la moi que j'utilise sur...
Tu peux expliquer rapidement.
Oui, rapidement. C'est une méthode de deux psychologues américains des années 70 qui caractérise la population en 16... personnalités différentes. Et donc c'est pas une science exacte, hein, c'est pas de la psychologie puissante, mais c'est une rare méthode facilement utilisable, facilement compréhensible pour quand on doit monter une équipe de salariés, quand on doit même la vie personnelle, quand on doit s'associer, etc. Voilà. Et donc il y a des paramètres différenciateurs et on est comme ça depuis l'âge de 8-9 ans. Et ensuite, en vieillissant, ben, on est plus à l'aise pour aller dans ces zones où on est en non-confort.
Je pense que toi, t'es commandant, c'est ça? T'es ENTJ?
Voilà, c'est plutôt ENTJ, et toi, t'es INTJ.
Moi, je suis INTJ. La différence avec Franck, c'est que moi, je suis du coup introverti, toi, t'es extraverti.
C'est juste, on a cet élément de différence, et après, nous avons bien sûr tous les éléments qui sont notre culture familiale, notre histoire personnelle, il y a plein de choses qui modèlent, mais cette personnalité... Moi, je le vois avec le temps, depuis des années que je travaille dans du développement de groupe, développement personnel, accompagnement et formation. C'est vrai que cette nature-là, elle exprime tout son potentiel si derrière on en est conscient qu'on travaille. Ouais. Donc, pour revenir à toi, tu as fait des études de type scientifique et c'est logique parce que ton profil INTJ, c'est le profil scientifique du MBTI. Donc, au final, tu es arrivé avec des bagages de l'analytique, le scientifique... l'organisation, la compréhension systémique.
C'est ça.
Et à partir de là, tu t'es orienté comme par hasard sur une production qui nécessite...
De la science dedans, oui. Les champignons, ça nécessite de la science
dedans.
Donc
après les études, finalement, au fond de toi, tu avais une espèce d'ADN de ce côté agricole qui était familialement refoulé, on ne savait pas trop, etc. Et
pas refoulé. En vrai, je ne l'ai jamais refoulé, tu vois, genre... Quand j'étais plus jeune, avec mes grands-parents, je faisais du jardinage, tu vois, les radis, les trucs de base. Plus tard, j'allais aider. J'ai eu une période où j'ai aidé mon oncle à la ferme.
Oui,
tu
voilà,
vois.
Tu participais.
Mais j'ai jamais, je l'ai jamais refoulé. C'est juste que j'ai jamais pu la libérer,
exprimer le potentiel.
Ouais, c'est exactement voilà. Ça. Mais je savais toujours que.
Donc
que
au fond de toi.
J'adore produire la nourriture et je veux faire ça, tu vois. Et donc, fais ça maintenant, quoi.
Donc au fond de toi, c'est vrai que des personnalités comme toi, baignant dans le monde agricole, malgré tout, proche de la nature, t'es attiré par ce secteur-là. Et donc, mécaniquement, ne prenant pas une orientation d'études agricoles de type ingénieur, parce que tu aurais pu faire une école d'ingénieur agricole comme moi, mes enfants, ils ont fait, etc.
Probable, ouais.
Toi, t'es parti là-dessus. Finalement, t'as fait une espèce d'entrée directe dans le milieu agricole, opérationnel, en t'associant avec ce gars, qui était presque un moyen pour toi de faire ce que nous, on faisait en formation en lycée agricole et en école d'ingé, les stages, finalement, les stages agricoles.
C'est ça, ouais. Alors, sacré stage, hein, parce que franchement, c'était vraiment, encore une fois, plus pour explorer le côté liberté, genre la première entreprise... On fait ce qu'on veut, alors que dans une entreprise, on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Mais ça reste une bonne expérience. Et après, du coup, cette première ferme, je suis retourné dans une deuxième ferme où là, on s'est pas du tout associé, du coup, tu vois. Genre, moi, j'étais au RSA à l'époque. Les deux autres étaient... Il y en a un qui était complètement au RSA, l'autre... On avait une structure, entre guillemets, qui n'était pas une structure. Il y en avait un qui était auto-entrepreneur, qui déclarait un petit peu tout ça, tu vois. Et on vivotait comme ça, tu vois.
Oui, c'était un peu, on peut dire, un collectif de trois individus, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais ils n'étaient pas chauds, tu vois, par exemple, pour faire un GAEC. Tu vois, parce que ça demandait de... Ah. De pas de s'investir, mais de se, tu vois, de se mettre dedans, de s'impliquer, tu vois. Et là...
L'engagement.
Voilà, ça n'a pas marché. Et c'est ici où est née un petit peu la culture des champignons, parce que du coup, on faisait des plantes, des tomates, enfin, on faisait vraiment 10-15 légumes vraiment très bien. Mmh. Et on a voulu regarder pour des champis, donc j'avais acheté un petit bouquin à l'époque, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose de... Enfin, c'était pas précis, tu vois, c'était vous mettez un peu d'eau, un peu de paille, et ça va pousser, quoi, si je synthétise. Donc, on a pris un peu d'eau, un peu de paille, et on a fait pousser deux espèces de champignons, donc les pleurotes, le pleurote jaune, le pleurote rose. Donc on a fait ce qu'on appelle une pasteurisation anaérobie, c'est tu prends la paille, tu la fous dans l'eau pendant 10 jours, ça tue tous les contaminants qui ont besoin normalement d'oxygène, après tu ensemences ta paille et là ça poussait. On a fait quelques pleurotes comme ça, mais tu vois, genre pareil, pas de calcul de rentabilité, pas de calcul de combien ça coûte, de combien il sort,
etc. Ce collectif,
quoi.
Il était basé où? C'était sur un terrain qui était acquis?
C'était le terrain appartenait au père d'un des associés.
Qui est agriculteur.
Non.
Non, c'était un terrain.
Il faisait, tu sais, il voulait faire plutôt un projet d'éco-village côté. Ouais.
C'était plutôt écolo. On était là dans ta période écolo.
Complètement.
Là.
Et en vrai, après, t'as l'écolo comme t'appelles, mais en vrai. Après, dans l'agronomie, l'écologie nous sert aussi. Et du coup, ce projet-là n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas d'accord sur les tenants et les aboutissants. Moi, j'étais chaud à m'impliquer à fond, quoi, comme je cherchais à le faire. Et du coup, encore une fois, là, je suis retourné vivre chez mon père à ce moment-là. J'ai retrouvé une mini-ferme vite fait vers Albi. Pareil, ça durait deux semaines. J'ai vu que ça retombait dans le même travers et qu'il fallait que je fasse quelque chose moi-même, quoi. Donc, c'est là où, en fait, j'ai repris un travail de salarié agricole en CDD, donc dans une entreprise qui fait du maïs grain, du tournesol, une grosse entreprise, Euralis, hein, pour
parler. C'était une coop, ouais, t'as bossé dans une coop, ouais.
C'est ça.
Très bien, donc ça t'a permis aussi d'aller sur un champ agricole plus classique pour aussi découvrir...
C'est ça.
Parce que finalement, si on résume, n'ayant pas réalisé d'études agricoles avec des stages, etc., finalement, là, tu t'es autorisé, tu t'es pris une espèce de liberté et tu t'es payé. Moi, ce que j'appelle ça, c'est que la formation, à un moment donné, on ne peut pas tout attendre de l'État et des fonds de formation. À un moment donné, la formation, ça se paye aussi personnel et souvent, c'est par la pratique. Quand on lance ses essais, ses premières cultures de champignons, ses premiers cochons, ses premiers légumes, etc., on teste ça en micro-production, on fait ses propres essais et on paye pour apprendre. Et on met 500 balles de graines, 1000 balles de scie, et finalement, c'est une formation action qu'on est en train de se financer et découvrir. Donc toi, n'ayant pas fait d'études agricoles de sage, mais finalement, tu as fait un mode en accéléré de façon autonome, où tu as fait ces essais avec ces gars que tu as rencontrés dans différents...
Je sais pas si c'était très accéléré, honnêtement, tu vois, parce que c'était très dense.
Non, mais accéléré au sens où t'as enchaîné, je me mets de ton point de vue, tu as enchaîné trois expériences, pratiquement.
Trois
expériences, dans un temps, dans un certain temps court.
Deux ans.
Oui, donc c'est quand même accéléré de ton point de vue à toi. Toi, avec les gars, eux, ils étaient sur un mode certainement de ralentisseur. C'était pas des entrepreneurs. Certainement que tu es tombé en frontal. Et c'est pour ça que la personnalité et l'esprit entrepreneur, c'est tout le monde l'a pas. Certains peuvent le développer, d'autres le développeront jamais. Il y a un côté inégalitaire quand même un petit peu là-dessus. Malgré tout, tu as fait tes stages, après tu es parti dans le para-agricole, pour être au contact du monde agricole aussi, pour densifier et t'immerger, finalement.
Oui.
Et alors, en même temps, pendant que tu étais chez Euralis, là, enfin, dans la COP, qu'est-ce que, là, tu t'avançais sur la production, sur la science du champignon, et sur les tests, ou pas?
Oui. Alors, du coup, je suis retourné chez mon père, et j'ai la chance qu'il avait eu une cave, tu vois. Et donc, j'ai commencé à cultiver dans sa cave, donc toujours pareil. Bon, peut-être un... En gros, pour synthétiser, t'as deux grandes manières de cultiver les champignons. T'as comme on le faisait à Mirande, là, avec les trois associés, en extérieur, où tu vas mettre tes champignons dans les conditions naturelles, et c'est la pluie, le temps, le climat, globalement, qui va décider quand le champignon sort ou pas. Et là, je suis passé à un mode plus contrôlé, où c'est moi qui gérais la ventilation, l'humidité, etc. Donc, plus facile aussi à faire dans un premier temps. Et donc, j'ai fait ça dans la cave de mon père. Ça a fonctionné. Et là, c'est là où j'ai commencé aussi à monter mon blog, ma chaîne YouTube, pour expliquer aux autres comment on le fait. Parce que je pense que c'est vraiment pas mal d'expliquer aux gens comment on fait quelque chose, parce que d'un point de vue pédagogique, ça t'oblige à l'avoir hyper clairement en tête.
Et c'est-à-dire que ce que tu étais en train de faire, c'est que vu que tu avais besoin de te former, et vu que tu n'avais pas appris, tu n'avais pas de base agricole, tu n'avais pas forcément appris ça en amont, ben, tu t'es dit, ben, quitte à apprendre, vu que je débute, ben, peut-être que je peux entraîner une communauté autour de moi et que tu es quand même une génération d'Internet, du digital. Et tu as fait ce qu'on appelle une pierre de coups.
Ouais,
tu as profité
ouais.
de ton prototype garage, c'est la fameuse, hein, c'est le fameux lancement de business dans le garage, hein, que tout le monde démarre, hein, même Steve Jobs, tous les grands entrepreneurs, ils démarrent dans les garages. Alors certains deviennent milliardaires, d'autres resteront plus modestes.
Ouais.
Mais cet esprit, moi, ouais. cet esprit garage, mais c'est toujours ça, c'est le test, on commence à faire ses premières ventes, et à partir de là, ben, soit on explose, soit on reste là, soit on arrête, et tout le monde... Et il faut s'autoriser aussi d'arrêter, hein, de l'échec, ce n'est pas un problème, dans la mesure où on ne s'est pas engagé à investir et à faire prendre des risques à la famille et soi-même. Donc ce test, c'était en quelle année là, que tu as démarré ça? C'était quand?
C'était l'année du rhume 19. Donc c'était
2020
2020, c'est
donc,
ça.
Donc en gros, il y a 5 ans. Oui,
bien 6 ans, bientôt 6 ans. Ouais, 6
donc
en septembre.
Ça veut dire 2020. Donc 2020, tu reviens chez ton père, tu testes la production, tu commences à monter la chaîne YouTube, tu te formes en même temps, tu te formes avec ta communauté en même temps.
Oui, c'est ça. Mais alors au début, c'était pas pour... tu vois, aujourd'hui, c'est plutôt professionnel, mais au début, j'avais aucune vocation à gagner de l'argent avec ça. Je le faisais pour les particuliers parce que je sais qu'il y en a certains qui étaient intéressés. Et donc, partant de là, j'ai commencé à proposer des formations pour les particuliers. Mais il se trouve que finalement, dès dans ma première vague de formation, il y en avait quasiment la moitié qui voulaient faire au moins un complément d'activité agricole.
Un petit complément.
Avec ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai développé. Et je me suis dit, y en a qui, pour qui ça fonctionne. Bah, du coup, bah, je vais me mettre dedans, tu vois. Déjà parce que ça me plaît. Deuxièmement, parce que ça me fait du skill in the game. Tu fais, encore une fois, tu peux pas proposer d'expliquer quelque chose que tu... d'apprendre quelque chose que tu fais pas. Tu vois, donc, juste tu le fais. Donc, ça m'a aidé après à faire des formations professionnalisantes, etc. Et ça m'a permis aussi par la suite... De financer en partie la ferme dans laquelle je me suis installé aujourd'hui. Ouais.
Donc, est-ce qu'on peut dire que on va dire que le parcours, le calendrier, puisque c'est important dans la création d'entreprise aussi pour les gens qui lancent un projet, que ce soit des fils agriculteurs qui lancent une nouvelle activité ou quelqu'un qui crée de toutes pièces, moi j'insiste vraiment sur ce point-là. Et je pense que c'est vraiment... très important d'être lucide, c'est la notion du temps. C'est qu'on travaille en agricole en particulier, en création d'entreprise, sur des temps longs. Alors des fois, on a des belles surprises, ça s'accélère plus vite.
Ouais.
Mais souvent, l'hypercroissance t'amène ensuite à des fois de la chute parce que les boulons sont mal réglés, etc. Par contre, voilà, il y a un temps long. Donc ça veut dire que 2020, c'est parti, tu testes et finalement, jusqu'à 2024, que tu arrives ici 24, tu as progressé, comment
ça s'est passé? Au début, il n'y avait pas du tout d'approche business, pas du tout d'approche calcul, pas du tout d'approche rentabilité.
Et donc
ça a commencé deux ans après.
2022.
Voilà, quand je me suis installé avec ma compagne dans le Béarn, ici. Enfin, c'était pas ici, c'était un petit peu plus loin, à Artix. On s'est installé et je voulais qu'on ait un truc où il y ait une cave et un garage, tu vois. Donc, on a pris un appartement avec une cave et un garage, mais il n'y avait pas d'électricité ni dans la cave, ni dans le garage.
Oula.
Et donc, j'ai cultivé les champignons dans l'appartement, en fait. Tu vois, genre, on a... Donc, c'était un T3. T'avais notre chambre, t'avais le salon, et t'avais une autre chambre que ma compagne Valentine, si tu nous regardes, a gentiment accepté qu'on la transforme en champignonnière,
énorme,
tu vois.
Énorme.
J'avais le petit labo, j'avais une chambre de fructification, enfin bref, je faisais tout là-dedans. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment compter, etc., combien ça a fait... si je mets 5 euros, combien est-ce que ça peut me rapporter si je vends à tel prix, etc. Là, c'était vraiment les débuts basiques.
Donc, ton statut juridique, c'est quand que tu commences à être officiellement avec un statut SIRET ?
C'est à ce moment-là. Là, j'ouvre... Enfin, même, c'était déjà avant. C'était vers 2021. J'avais ouvert une auto-entreprise, du coup.
Donc, tu avais démarré en auto-entreprise,
ouais,
en 2021 pour commencer à un peu à commercialiser.
C'est ça.
Tu commences à vendre comme ça aux particuliers pour être couvert.
C'est ça.
Et après, le statut juridique, il a évolué quand après ?
Il a évolué 2 ans après, donc en 2023.
2023.
Et en fait, je me suis... Ben, j'ai fait une erreur. Quand tu sais pas, tu sais pas. J'ai dépassé en chiffre d'affaires en auto-entreprise. T'as pas de TVA si tu dépasses pas, dans mon cas, activité de service. Donc, j'étais surtout rémunéré par la formation à l'époque. Si tu dépasses pas 36 000 et des poussières. Mmh. J'ai dépassé, mais je savais pas, en fait. Et là, bim, TVA... Moins 50% au total, en gros, sur le chiffre d'affaires. Quoi. Entre la TVA et les charges basiques, c'était moins 48 ou moins 49. Mmh. Et c'est là, donc, où on a décidé de créer une entreprise. Quoi.
Donc, tu as une société, c'est une SAS.
Non. C'est ça. C'est SAS. C'est ça. Donc, et... associé avec
Valentine.
Valentine, ouais.
Voilà, donc ça veut dire que c'est une société, quoi, 80-20
Non, c'est 49 pour Valentine, 51 pour moi.
Ah oui, 51-49.
En fait... Si tu veux, Valentine a mis un apport conséquent dans la maison. Maison qui sert de champignonnière, tu vois. Donc, c'est une maison sur 2 étages. On vit en haut et en bas, tu as la champignonnière, tu vois, sur à peu près 75-80 mètres carrés. Et donc, Valentine a mis tout son apport dans la maison. Elle a mis un apport conséquent. Et moi, je voulais garder mon apport pour investir à champignonnière. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas tout mettre dans la maison. Mais si on met tout, tu vois, ça nous réduit le crédit, ça nous diminue tout ça. Et en contrepartie, je te donne la moitié de ma société. Donc, c'était un peu un pari pour elle, parce que si ça se casse la gueule, enfin, je veux dire, ça vaut plus rien, tu vois. Mais voilà, ben, aujourd'hui, elle regrette pas. Ça, c'est une affaire qui roule, qui peut mieux rouler, hein, bien évidemment. Et on a fait comme ça, voilà.
Ok, donc moi, je, à ce stade-là, ce que je perçois, donc, c'est une évolution, je dirais, que j'ai connue avec le travail que je menais sur...
Travailler les cochons ?
Non, l'accompagnement, plus l'accompagnement de porteurs de projets,
okay.
Quand on a monté une couveuse d'entreprise, où effectivement, tu as, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as réalisé... un peu des étapes que nous réalisions à l'époque avec j'ai accompagné, je pense, plus de 80 ou 90 ou 100 porteurs de projets, et il y avait toujours cette phase un peu pré-stage là, stage d'immersion, t'es allé te tester avec des gars, essayer de lancer des trucs, tester, voilà, tout ce maître de stage, voilà, découverte, un peu de salariat occasionnel, bon, voilà, toute cette partie, voilà, surtout pour des gens qui n'ont pas fait d'études agricoles encore, voilà.
Ouais.
Mais même voilà. Après, t'as commencé à faire du test auto-entreprise, là c'était plus vraiment du test, là, tu commences à faire du business.
Ouais.
Donc, mais t'es en phase presque de couveuse d'entreprise que tu t'es fait toi-même. Tu fais ta propre petite couveuse. Et puis là, ça y est, en SAS, tu intensifies tu passes en pépinière presse d'entreprise, là, et en plus, t'as un associé avec ce que tu viens de nous expliquer, avec un portage, une réflexion financière qui était... prendre du crédit, le banquier va venir plus facilement sur l'immobilier parce qu'il ne prend pas de risque sur l'immobilier en général, établissement de caution ou hypothèque. Il va plus prendre de risque sur une société qui se crée, sur laquelle il y a un vide au niveau commercial ou techniquement, on ne sait pas ce que le gars va produire. Et surtout qu'il faut de la trésor, et la trésor, ben, c'est du circulant, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc le banquier, dans une maison, il sait, dans une entreprise, il ne sait pas trop.
Alors, ça n'a pas été facile qu'on ait le crédit de la maison, parce que moi, j'avais... que 2 années déjà de ton entreprise, et il voulait 3 années. Bon, c'est la règle. Et donc, ils m'ont même pas compté dans l'endettement. Ça fait que, en fait, l'endettement d'une personne, oui, qui est généralement 30-35%, je crois, maintenant.
C'est 30 max, 30. Ça fait 30, 32.
Et bien, ils ont accepté d'endetter Valentine à 42%, en fait. Et moi, je ne suis pas dans l'endettement statistiquement.
Oui, mais,
dans
parce que,
dans
ouais, mais vu que derrière, tu es dans la société.
C'est ça. Alors, la société n'était même pas... Ah si, elle était créée. Elle venait d'être créée.
Mais la maison, elle est en indivision ou elle est à son nom?
En indivision.
Donc, qui est quand même... Donc, de fait, ils ont chargé un peu sur elle parce qu'elle avait un... C'est toujours la frilosité de notre système bancaire français qui finance les fonctionnaires, les CDI. On est toujours là-dedans. Et donc, ils ont appliqué la même chose. Si ce n'est que toi, ils l'ont chargé à elle... aujourd'hui, ça serait différent, hein, parce que là, c'était quand même des crédits 2022-23.
Ça fait 3 ans qu'on va être ici, oui, donc 2023. Ouais.
Ouais, donc là, aujourd'hui, les critères seraient certainement un petit peu revus, mais grosso modo, on voit bien toujours qu'ils sont capables de faire des efforts sur l'immobilier, que sur l'entreprise, c'est pour te prêter 30 ou 40 000 euros pour démarrer, c'est la croix, la bannière. En tout cas, vous avez fait le choix d'un portage, on va dire, intéressant d'un point de vue juridique. Une SAS sur lequel, dès qu'on se rémunère, par contre, on est hyper imposé au niveau charges sociales. Donc, pour l'instant, la rémunération est limitée pour plutôt prendre des dividendes et constituer une réserve.
Alors, on ne prend pas de dividendes non plus. Ce qu'on fait concrètement, c'est que personne n'est salarié de l'entreprise et on vit complètement sur l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait passer tout ce qu'on a le droit de faire passer, la voiture, des fois ça peut être des petits repas, bref, on charge au maximum l'entreprise avec ce qui est légal de faire, et en fait ça nous évite donc de tirer de l'argent. Donc après là, tu vois, genre on peut le faire parce que Valentine, elle est encore au chômage pendant quelques mois. Et quand elle ne va plus être au chômage, donc elle était salariée, là, elle a monté aussi sa boîte. On a calculé qu'en gros, bon, nos comptes associés, tu vois, ils sont bien pleins. Genre, à deux, on a plus de 40 000 euros. On va sortir 900 euros par mois chacun de notre entreprise. Mmh. Et en fait, on a largement de quoi payer le crédit et vivre là-dessus.
Tout à fait. Alors, par contre, si on revient à l'entreprise, le crédit, c'est un crédit immobilier, mais d'où l'impact est que c'était un immobilier qui n'est pas uniquement personnel, puisque la maison la moitié de la maison est professionnelle et l'autre moitié est personnelle. Donc, c'est-à-dire que le crédit qui était fait totalement sur le personnel, finalement, l'entreprise paye, aide ou supporte, participe.
Ouais.
Ce qui veut dire que ça réduit quand même le risque de façon générale. Par contre, peut-être la vigilance, moi, de mon point de vue, ou en tout cas, les idées les possibilités que tu as sous le coude, mais c'est que vu que tu as des comptes courants associés sur la société et que tu as maintenant un chiffre d'affaires qui tourne, si demain tu vas voir le banquier, puisque tu ne cherches pas d'associé investisseur, si tu as besoin d'un petit crédit pour te remettre à flot, faire du développement ou du matos, tu peux aller voir le banquier avec ta SAS. Quoi.
Complètement, mais là, on le fait pas parce que on en a déjà, pour investir dans la ferme, tu vois, on n'en a pas eu besoin. En tout et pour tout, on a investi maximum, tu vois, genre ça devait être 12 500 euros pour avoir un bon outil qui tu peux faire en bénéfice net 2 700, tu vois. Mmh. Donc ça suffit largement dans notre cas. On pourrait s'endetter, tu vois, mais du coup, tu rentres dans une logique où on n'est plus sur du circuit court. Là, on est full circuit court pour le moment.
Oui, alors, ça, je comprends. Moi, par exemple, j'ai une culture plus agricole. Là, je dirais que je me confronte à quelqu'un qui aurait un parcours, une espèce de mix, si je puis me permettre, entre un petit côté à l'américaine avec les investisseurs qui rentrent dans la boîte et un petit côté gauchiste qui refuse le banquier.
C'est pas que je refuse le banquier.
Non, mais je te parle par rapport au modèle, nous, agricole, dans lequel on a été plus habitués. Je dis pas que c'est mal. Je dis que ton format aujourd'hui ressemble à ça.
Ouais.
Nous, on a un format plus classique qui est du prêt bancaire pour financer les investissements qui s'amortissent. Ouais. Et on constitue un patrimoine et un outil productif en faisant prendre du risque aussi à quelqu'un d'autre, mais sans avoir un associé qui va venir.
Je comprends, mais en fait...
C'est un autre modèle.
Je comprends, il n'y a pas de meilleur modèle pour moi, mais dans notre cas, en fait, on a choisi de ne pas s'endetter en plus. On pouvait, mais tu vois, on avait, on avait le capital et en plus la trésorerie pour commencer. Si on commençait à s'endetter, alors déjà, je n'ai pas fait de BPEA, donc je n'ai pas la DGA, etc. Et même si je l'avais fait, j'ai déjà été associé à un tiers dans un GAEC, donc je n'y avais pas droit. Là, le fait de ne pas s'endetter, ça nous permettait aussi de réguler notre mode de vie. Mais là, là, tu vois, par exemple, j'ai mis plus de 6 mois à faire vraiment tous les travaux de la ferme. Il n'y a pas 1 euro de production agricole qui est sorti pendant cette période-là. Donc, si on se met en plus un crédit là-dessus, j'aurais pu très bien avoir un CDI, un truc alimentaire à côté, tu vois.
Oui, alors c'est pour ça que si tu veux, parce que là, c'est ton choix de gestion. Mais pour se le mettre en perspective, moi je trouve que là, ce qu'on peut aborder avec toi, puisque la double activité, qui est quelque chose qui est indispensable et que moi je préconise sur le lancement de son mita agricole pour sécuriser, mais toi dans ton choix, on a optimisé plus, je dirais, le côté juridique avec la SAS, on a optimisé le côté d'un associé investisseur avec une optimisation d'un lieu un lieu de production et personnel. Ouais. Par contre, comment tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as eu, pour réfléchir à tout ça, pour trouver le statut, pour essayer de passer le modèle
comment t'as fait? Pas d'accompagnement, essai-erreur. Donc, première erreur, tu vois, tu prends pas de risque, tu connais rien, tu fais une auto-entreprise. Bon, en agricole, ce serait plutôt une EI, mais auto-entreprise. Et après, à force d'écouter et de m'éduquer un peu financièrement, économiquement, voilà, j'ai fait mes calculs et la SAS, c'est ce qui m'a semblé le plus
adapté.
Voilà, parce que l'argent qui est dans la société, il est aussi... Bon, c'est un bordel un peu notre société, mais l'argent qui est dans la société, il est aussi réinvesti directement de la société. Donc, on n'a rien en personnel. Et les bénéfices de nos investissements reviennent également dans la société directement, quoi.
Si tu te remets un peu en arrière, là, en 2000, donc pas 2020, mais un peu avant 2020, puisque avec tes expériences, avec les collectifs de personnes ou les porteurs de projets avec qui tu as voulu t'associer,
ouais.
Quels seraient les sujets sur lesquels il aurait fallu un accompagnement ou un conseil ou des formations? Qu'est-ce que tu aurais voulu peut-être
Qu'est-ce qui m'aurait fait progresser plus
vite?
Ouais,
plus vite, éviter les erreurs là, parce que t'as...
Facile. Ce qui m'a manqué au démarrage de la ferme, de mes projets de ferme, c'est vraiment d'avoir une vision économique. Simple, même simple, tu vois. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Les charges, le type de société, vraiment quelque chose d'extrêmement simple, tu vois, sans rentrer dans la TVA, machin... Même pas à ce niveau-là, tu vois, mais juste ça. Et ça, je ne l'avais pas du tout, mais parce que je pense que quand j'ai commencé, ce n'était pas mon objectif aussi, tu vois. J'avais vraiment un objectif de liberté, tu vois, dans un champ, de me lever tôt, mais de pouvoir faire une sieste l'après-midi quand j'en avais envie, etc. Donc, le business plan.
Le
prévis, voilà, le prévisionnel, c'est ce que j'appelle le business plan. Mais... Et un mentor, tu vois, quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que mon oncle, mais c'est quand même très tradit comme business, tu vois, avec 50 vaches et tout à Lactalis. Mais un mentor qui m'aurait dit, alors il vaut mieux faire ça, parce que lui, il a déjà connu le chemin et il m'a juste à me montrer ce chemin-là est possible, tu vois. Et moi, j'ai pas ça dans ma tête quand je commence et donc forcément, je fais des conneries.
Oui, tout à fait. Donc si on résume, c'est un peu deux axes. Ça aurait été effectivement d'être accompagné sur, très simplement, sur une vision, raisonnement économique, quelques bases d'éducation autour d'un compte de résultats, d'un prévisionnel, d'un modèle et juridique assez simple qui t'aurait permis de te projeter, au moins de te structurer. C'est plus de te structurer à moyen terme, parce que là, quand on se lance des business comme ça, on ne voit pas plus loin qu'un an, 2 ans ou 3 ans. Quoi. C'est drôle quand des fois tu interroges...
Qu'un mois même, ou 2 mois dans mon cas au début.
Ce qui est drôle, c'est quand on interroge des personnes en fonction de leur profil, de personnalité, tu leur dis c'est quoi pour toi le court terme? Il y en a certains, c'est la semaine. Quand on parle comptablement, un court terme, c'est 12 mois. Quand on dit à quelqu'un c'est quoi le long terme, il te dit un an, alors qu'un long terme, c'est 10 ans. Donc, Chacun, voilà. Et ensuite, ce qui est très intéressant, parce que, et ça, moi, c'est quelque chose vraiment de fondamental, c'est le mentoring. C'est-à-dire, c'est de trouver, dans les formations agricoles, on l'avait avec les maîtres de stage, qui pouvaient ensuite devenir des mentors, mais pas toujours. Le mentor, c'est très spécial. Et ça se trouve des fois pas dans ta production. Des fois, il t'en faut quand même un peu dans ta production, parce que même il peut être à 300 bornes, on s'en fiche. Ouais. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est vraiment ce parrainage, ce mentoring. Et c'est vrai que dans le podcast Chien d'An, qu'on est en train de faire aussi, je pense que ça sera un axe très important à terme qu'on pourra développer au fil des épisodes. Et de fait, il y aura des gens certainement qu'on invite qui seront approchés parce qu'ils vont inspirer peut-être des gens dans leur attitude, dans leur expérience, etc. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, le mentoring, c'est pas quelqu'un que tu as besoin d'avoir tous les jours au téléphone. Mais à des moments clés, c'était peut-être là, ça t'aurait fait avancer.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, petit message à l'audience, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous intéresse également dans le contenu qu'on propose, qu'on puisse également s'ajuster à ce que vous aimez. Voilà, petit message.
Alors, on peut parler de la production actuelle de champignons, ouais. Donc, la ferme, l'activité de production. On est, alors là, au niveau champignons, là aussi, c'est pareil. Peut-être essayer de nous expliquer. On connaît le champignon, enfin, moi, en tout cas, ma génération, nous, on connaissait le champignon principalement de Paris, voilà, qui est très connu, qui était une production très importante française. Il se trouve qu'ici, moi, dans le Béarn, il y a un producteur qui s'est lancé dans les années 90, dans le coin qui faisait des pleurotes, pleurotes, et il a acheté les sacs. Tout déjà ensemencé de je sais pas où. Depuis, la filière champignon s'est sacrément diversifiée et développée.
Ouais, alors, 90, nous en France, ça fait. Après, tu as des acteurs qui sont là depuis 15, 20 ans, qui proposent donc les sacs dont tu parles déjà tout prêts à produire. Donc, c'est des sacs qui contiennent la paille, la sciure. Tu mets ça dans ta chambre de fructification avec humidité, lumière, ventilation, et ça pousse.
Ça pousse.
Mais là où donc ça existe depuis 15-20 ans, mais là où ça commence à vraiment se structurer, c'est tu vois, tu rentres un peu plus dans le modèle où tu vas prendre un peu plus de plus-value en faisant un peu plus de choses, et ces choses-là, c'est notamment la fabrication du substrat. Donc tu vas prendre toi-même ta paille, ta sciure, tes suppléments, tu vas les traiter, donc pour supprimer les micro-organismes, et tu vas ensemencer ça donc dans un petit labo avec des graines de champignons pour faire tes propres champignons. Et là, tu tires vraiment toute la plus-value de la culture des champignons, quoi. Et donc, les champignons, pour revenir aux champignons de Paris, ça se fait toujours, mais c'est plus facile quand on se lance aujourd'hui de faire des champignons dits exotiques, donc les pleurotes, les shiitakes, les crinières de Lyon, parce qu'ils vont pousser sur du bois et ces substrats-là sont plus simples à faire que sur du compost. Si tu veux faire du compost, c'est un métier à part entière. C'est très complexe. Il faut faire monter la température. Il faut que tu cultives des micro-organismes en fait, dans le substrat jusqu'à ce qu'ils soient devenus marrons. Tu vois. Et ça, ce marron, c'est en fait les cadavres des bactéries que vont bouffer les champignons de Paris. Et donc, aujourd'hui, on est sur ces cultures qui sont un peu plus exotiques. Et tu as encore d'autres cultures qui sont encore plus exotiques, par exemple le cordyceps, qui sont des champignons qui naturellement poussent sur des insectes. Donc nous, on fait un mélange, c'est un peu plus protéique à base d'œufs de protéines, et on peut également faire pousser ça. Donc aujourd'hui, on est plus dans un modèle qui diversifie à fond les champignons, genre tu fais sur 16 mètres carrés, tu fais 5-6 variétés. VS, c'est comme dans toutes les cultures, je pense, des modèles qui font 15 tonnes du même champignon par mois, tu vois. En gros, et tous les modèles qui sont intermédiaires au milieu, eh bien c'est pareil, soit tu es obligé de tirer vers le tout transfo, soit tu fais tout, soit tu achètes tout d'un côté et tu vends juste tes champignons.
Oui, donc le champignon de Paris, effectivement, c'est une production qui s'est sacrément industrialisée. Bon, ça se faisait avant dans les carrières, toutes les carrières progressivement ont fermé parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, il y avait le réchauffement climatique... ça se casse la figure, etc. Donc là, aujourd'hui, ils sont sur des containers. Et puis, comme tu dis, ça nécessite un appro au niveau des matières premières. Parce qu'avant, historiquement, ils utilisaient le fumier de cheval qu'il y avait dans les vignes. C'était historiquement des carrières qui étaient... Bon, bref, le système était différent. Polyculture, élevage dans beaucoup de régions. Ensuite, les diversifications, comme tu dis, de champignons, c'est là où notre culture, nous, classique, il y a les champignons sauvages. à la Conconée, ouais. On a ramasse les pleurotes, cèpes, girolles, et puis voilà. Après, bon, je parle pas de la truffe qui est plus spécifique, truffe du Périgord, etc. Et c'est vrai que là, vous êtes arrivé depuis quelques années avec la pleurote qui était un peu, il y a 30 ans, un peu le champignon exotique. Là, maintenant, c'est... Il y a une gamme.
Il y a même des champignons comme la morille qui se cultive.
Qui se cultive.
Alors, c'est plutôt. Là, on sort de. Alors, ça se cultive en intérieur, mais ça, on ne le fait pas parce que ça coûte très cher. Tu vois, il faut. Dans le cycle de la morille, il y a un moment où elle fait des sclérotes qui sont des formes de résistance. Et si tu veux que ces sclérotes produisent des fructifications, il faut que ça descende globalement en dessous de 8 degrés. Donc, tu vois, tu peux le faire avec des clims et tout, mais bon,
ça coûte aussi de l'énergie.
Donc, tu le fais dehors. Et là, depuis 5-10 ans, tu as vraiment des méthodes qui sont tirées d'Asie, qui sont venues en France. Et là, il y a des Français, notamment une entreprise que tient une connaissance, Pierre Girard. Et ils ont trouvé, en fait, que quand tu mettais... en fait, le problème initial de la culture de morille, c'est que les Chinois, les Asiatiques de manière générale, mais surtout les Chinois, ils cultivaient 3 ans la même parcelle et après, il n'y avait plus aucune morille. Et en fait, on ne savait pas pourquoi. Et donc, ils allaient voir l'administration, il me faut une nouvelle parcelle, hop, on vous redonne, ça refait des morilles. Et tous les 2-3 ans, ils devaient changer. Et là, en France, là, l'équipe de Pierre Girard et tout, donc ça veut dire qu'on est pionnier en morille en France, ils ont trouvé qu'en fait, il y avait une bactérie qui s'appelle la Pseudomonas putida, qui est en fait une bactérie dont se nourrit la morille. Et en cultivant à la fois la bactérie et le champignon, ça permet d'avoir des parcelles qui descendent jamais en rendement, tu vois. Et voilà, bon, après, ils ont une méthodologie ou une espèce de pod qui fait que le mycélium vient en surface, tu gardes pas des sclérotes enterrées qui bouffent toutes tes bactéries l'hiver, et du coup, tu as tes parcelles qui produisent d'une année sur l'autre. Et même maintenant, il y a des morilles qui se cultivent en été pour être récoltées en septembre. Mmh. Donc, on a fait vraiment un bel avancement.
Ben, alors, moi, ce que je constate, puisque j'avais eu la chance d'être proche de ce producteur de pleurotes ici il y a 30 ans, c'est effectivement, lui, il était dans ce schéma d'engraissement. C'est-à-dire qu'il achetait des sacs tout faits, il avait aménagé un ancien séchoir à tabac très très sommairement. C'était vraiment comparé à toi avec toutes les sondes, toute la tech que tu mets. Et par contre, il était engraisseur. Alors, si je puis faire un rapport porcin, où j'achète un porcelet, je fais l'engraissement. Toi, on pourrait dire que tu es un peu comme moi, tu fais naître, tu fais, et après tu produis et même tu vends tes champignons en frais et... tu vas ensuite tu les fais sécher.
Oui.
Voilà. Donc, tu essayes de, quelque part, de faire sur un tout petit espace, de faire...
Tout le cycle.
Toute la filière.
Toute la filière, exactement. Parce que, donc, t'as l'étape numéro un, c'est t'achètes tes ballots. Donc, comme t'achètes tes cochons, tu les mets dans le champ, tu les engraisses, tu les vends. T'as la deuxième filière. Alors, donc, nous, c'est un substrat que tu fabriques. Donc, tu peux toujours acheter la graine, le mycélium. C'est comme si toi, t'avais pas de...
J'achète une dose d'insémination.
Exactement, c'est comme si toi t'achetais une dose d'insémination pour tes truies, donc niveau 2, et après t'as le niveau 3, toi tu possèdes tes verras, moi j'ai mes propres
souches
de champignons, donc dans lesquelles je fais le grain, enfin je fais tout le... Ah,
toute la filière.
Toute la filière, exactement. Et donc ça permet... en fait, ça demande plus de temps. Tu produis moins de champignons, mais tu es beaucoup plus rentable.
Alors, voilà, justement. Donc là, dans le modèle business, ça, c'est très, très intéressant. Je pense que là, on aborde, pour moi, un cœur du modèle. C'est que, l'ayant vu, le collègue, lui, il passait son temps. Ensuite, il y avait une sacrée salle où il avait des chariots avec des bacs, des ballots qui étaient assez lourds, en plus.
Tu sais combien il faisait, à peu près, peut-être la taille de sa production, plutôt, en kilos, par mois?
Plusieurs tonnes par an quand même. Ouais. Et par contre, les chariots, il y avait les sachets étaient quand même assez lourds, ça venait en camion, il fallait après tous les ouvrir pour enlever la paille, pour le mettre au fumier, enfin, une très grosse manutention. Et finalement, un produit qui vendait quand même à l'époque pas trop cher, il vendait pas mal à des professionnels, il était un peu en concurrence aussi, donc il était quand même sur un positionnement...
Milieu, pas tout petit, tout transfo et pas full industriel.
Voilà. Et, et, et dépendant, et c'est pour ça qu'il arrêtait entre autres, parce qu'il avait des gros problèmes de sourcing à un moment donné dans les substrats.
Et bien, tu sais que ça n'a pas changé. Il y a deux entreprises en France qui font des substrats. T'en as une qui a été rachetée là par une holding, une filière, qui vient de fermer. Donc ça a duré 5 ans. Et là, on se retrouve avec une seule entreprise qui fait ça, mais qui n'a pas du tout la capacité de fournir sur le marché. Donc une partie des gens qui se fournissaient directement en substrat se retrouvent, c'est même pas ils ont choisi, ils se retrouvent obligés de produire leur propre substrat.
Et c'est pour ça que ce que j'ai découvert avec ton travail, et puis je l'avais un petit peu vu, j'avais vu des trucs passer comme ça, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça parce que ce n'est pas ma filière, mais j'avais vu effectivement des personnes avant de te rencontrer voilà, qui faisaient leur mycélium. J'ai dit, ah, tiens, les gars, ils sont hyper pointus à faire ça, et pourquoi ils font ça? Je me suis dit, tiens, c'est du luxe presque, le mec, il est hyper scientifique. Mais non, parce que là, aujourd'hui,
ouais,
c'est vrai
qu'on pourrait croire que c'est du luxe, que bon, il fait la petite gélose, la culture liquide, etc. Mais en vrai, c'est vraiment le cœur du métier. Et d'un point de vue même adaptatif génétiquement. Je m'explique. Quand tu prends une semence de champignon que tu achètes au marchand, tu fais ton substrat, tu mets en fructification, tu récoltes, tu vends. Tu peux améliorer ton substrat, tu peux améliorer tes températures, mais tu ne peux pas améliorer la génétique de ta souche. Alors que si tu prends, pareil, une souche que tu achètes, tu fais ton substrat, tu mets en fructification, et au moment où tu mets en fructification, tu prends un petit bout de ce champignon, tu le remets en gélose, donc c'est un clonage, hein, c'est comme si tu prenais un gourmand de tomate pour le planter. Mais donc il y a une reproduction par clonage qui est non sexuée, mais génétiquement, il y a un phénomène qui s'appelle l'épigénétique, où ton champignon, en fait, il va déjà avoir un premier jet d'adaptation à ton substrat. Par exemple, si tu as mis sur de la sciure de bois, il va naturellement avoir relâché des enzymes qui dégradent le bois. Et le fait de le reprendre et de le remettre, dans le deuxième cycle, il va déjà être adapté parce qu'il aura une mémorisation en fait, du fait qu'il a consommé du bois. Bon, tu peux le faire une dizaine de fois, mais après, tu as un phénomène qui s'appelle la sénescence génétique. Au bout de peut-être 10 fois, ton champignon il commence à faire la gueule. Il perd sa capacité à fructifier, etc. Donc, c'est là où il faut éventuellement, et là tu rentres vraiment dans le labo, faire ce qu'on appelle une reproduction sexuée. Tu récupères les spores sur une gélose, tu les fais fusionner, tu récupères un individu, et là tu as un individu qui est neuf génétiquement. Après, il faut le tester en culture parce que tous ne sont pas égaux vu que ça fait du brassage et de la variété génétique, quoi.
Alors, combien de champignons que tu cultives de façon commercialisable, que tu vraiment qui
rentable?
Pour l'instant, ouais, rentable, pas tous tes essais, autrement. Parce
alors,
que,
ouais.
Vu que t'es le mode, on l'a vu là en deux minutes, on voit bien que t'es le mode scientifique. Donc là, c'est que t'es clair, t'es démasqué, Andreas. Par contre, combien de variétés tu commercialises aujourd'hui, à peu près?
Pleurote.
Oui.
Donc rentable. Foliote du peuplier, rentable.
Ouais, très très bon.
Shiitake, rentable. Crinière de lion, rentable. Black pearl, rentable. Chestnuts, rentable. Et après, toutes les variétés de pleurotes globalement sont rentables, jaune, rose, etc. Et là, ce que je suis en train d'instaurer et que je sais qu'il est rentable, c'est la morille.
Oui, c'est ton fameux projet morille, là.
Morille, donc si, juste, déjà rien que si t'achètes le matériel, ça te coûte 35 euros par mètre carré. Un mètre carré de morille, bon, au max, ça peut sortir 1,2 kg. Disons, tu sors 1 kg, ça fait 100 euros. T'as 65% déjà de marge brute. Tu peux encore monter si tu fais tes semences, parce que là, t'achètes les semences. Donc, je pense que la morille, c'est vraiment le prochain champignon qu'on va inclure.
Donc, pour l'instant, si on résume sur ton unité de production, 6 variétés commercialisables, plus une que tu sens bien partie, qui est la morille. Ça fera 7 d'ici quelques mois. Je reviens à la partie scientifique de ton explication. C'est vrai qu'effectivement, vu que la production de pleurotes, historiquement, je pense qu'elle s'était un peu bloquée à cause de... Moi, je l'ai vu, puisque le producteur, il a arrêté. Il a arrêté, pas tant parce qu'il n'en vendait pas, par ces soucis-là. Et il n'a pas fait le choix, lui, de se mettre, de façon scientifique, à faire la sélection. Et ça me fait vraiment penser à la filière porcine. C'est que là, tu es vraiment sélectionneur. T'as tes reproducteurs, tu ensuite as tes unités d'engraissement. C'est vraiment étonnant la similitude. Et j'ai presque envie de dire, est-ce que des producteurs comme toi, qui donc la partie labo, qui ont leur souche des six variétés là, ou cette variété, les souches maison Jeannotto, est-ce que demain, moi par exemple, j'ai envie j'ai un bâtiment qui est adapté à une cave, j'ai envie de me lancer à faire une unité d'engraissement. Est-ce que demain, Jeannotto pourrait devenir un fournisseur de sacs ensemencés à quelqu'un à côté qui pourrait être l'engraisseur comme moi? Je fournis des porcelets à des engraisseurs qui sont mes collègues et mes concurrents.
Oui, ça pourrait. Mais là, pour l'instant, honnêtement, c'est une question d'espace. On ne peut pas le faire, on n'a pas l'espace. Je pourrais remplacer une partie de ce que je produis pour moi pour les autres. Mais en fait, c'est beaucoup plus rentable de garder et d'accord. de faire fructifier les sortes que je produis.
Dans un absolu, tu pourrais être vendeur comme moi de Porsche,
oui,
de sac, voilà. Et une fois que tu as ton système optimisé et que tu peux lancer ça. Les 6 variétés aujourd'hui que tu vends,
oui.
Donc tu vends à qui?
On vend full B2C, c'est-à-dire uniquement à des particuliers. C'est-à-dire donc, les marchés qu'on fait ensemble, les AMAP. Et après, on se sert beaucoup de certains sites qui ressemblent à des AMAP, mais tu sais, je ne sais pas si ça te parle, oui. Locavor,
voilà, les sites de commande en ligne.
La ruche qui dit oui, voilà. etc. On vend pas mal là-dessus de volume. Et c'est tout. Parce que pour le moment, on vend 95% de notre production. Il y a 5% que des fois, on n'arrive pas à vendre. On fait sécher et voilà. Ça repart au marché. Donc, on en vend 100%.
Oui, alors ça, ce qui est très important dans le modèle business aussi, c'est que moi, je vois comme, là, j'analyse ton système, c'est que le fait d'avoir internalisé la production de semences, ensuite de sacs, de substrats, et avoir les salles d'engraissement, ou les salles de pousse, oui, voilà, c'est aussi le temps, le coût global et le coût logistique. Parce qu'après, les sacs, il fallait les faire par transporteur, tu as toujours de la perte, des problèmes de livraison, des chargements, etc. Donc là, tu gagnes un temps fou malgré tout, même si tu passes c'est du temps de présence et des manipulations, mais tu es sur place. Donc tu gagnes un temps fou. Et après, tu perds rien parce que finalement, même si tu as un peu de perte, on va dire la production comme tout le monde, mais une fois que si tu ne vends pas, que tu as des consommateurs qui te font défaut, tu peux sécher.
Ah oui, complètement, oui.
Donc ça, c'est et le producteur à l'époque, si tu veux, de pleurote, lui, il ne maîtrisait pas, comme toi aussi, scientifiquement, tous ces process. Lui, il ne séchait pas, c'était peut-être moins à la mode. Il avait un petit autoclave et il faisait des conserves.
C'est bien aussi. En vrai, c'est même peut-être plus valorisable, je pense, de faire des conserves que de faire sécher. Mais du coup, là, tu rentres dans un autre domaine. Il te faut un labo de transfo, etc.
Alors, donc, ta vente, on est dans de la vente directe, des marchés, des AMAP, des sites de commande en ligne. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ton unité de production est à quel niveau de capacité? T'es à 100%, t'es à 80%, 60%, ça se décidera à quoi?
Alors, le maximum qu'on puisse produire, donc, la ferme, elle fait en gros 75 mètres carrés et la salle dite d'engraissement de champignons, la salle de fructification. Elle peut produire par mois 200 kilos poussés à son maximum. Là, on n'est pas aux 200 kilos, surtout que là, on est en été, donc on a réduit considérablement parce qu'on teste de nouvelles espèces, etc. Mais globalement, on doit tourner entre 60 et 75% de la capacité maximum parce que. Donc, il y a les champignons qui marchent hyper bien, genre les 7 que j'ai testés, mais je garde 20-30% où je fais des tests qui ne sont pas forcément rentables pour compléter ma gamme. Tu vois, genre j'ai des ventes de champignons, des pousses que je sécurise, et à côté de ça, ce serait peut-être plus logique de faire uniquement des champignons que je maîtrise, mais j'ai envie de développer ça, ça me plaît, voilà, donc ça m'enlève un peu de ma rentabilité, mais. Voilà, pour moi, c'est vraiment important d'avoir du plaisir dans son travail. Donc, je fais cette partie un peu R&D où je teste d'autres champignons à côté.
Très bien. Donc, ça veut dire que bon, cette R&D, mécaniquement, elle va baisser parce que tu vas avancer, tu vas à terme arrêter certains trucs, etc. Et donc, vu que ton commerce, et vu que ça fait même pas 2 ans que tu es sur le coin, ta clientèle elle se constitue, ton bouche à oreille va fonctionner, donc mécaniquement ta demande elle va progresser, donc ouais. Ta vente, voilà, tes ventes vont progresser, donc ta production à vendre va augmenter, donc tes 200 kilos tu vas y approcher rapidement. T'as d'autres possibilités de production sur les extérieurs aussi, de dehors?
Oui,
aussi.
Oui, j'ai 3000 mètres carrés, on a 1000 mètres carrés avec du bois, mais là c'est une réflexion. Il y a la morille qui est hyper rentable, qui peut être faite, qui pousse dans mon jardin, les tests le montrent, le modèle est à améliorer, mais du coup, encore une fois, là il y a le cœur vs la raison, tu vois. La raison, c'est Andrea, la morille, ça rapporte de l'argent, tu ne fais que de la morille. Et encore une fois, il y a le cœur un peu scientifique, agricole, test, machin, qui dit, ouais, mais tu pourrais faire des poules, tu pourrais mettre un cochon pour toi, tu vois, etc. Et, mais voilà, et du coup, pour l'instant, c'est une réflexion. Déjà, on sécurise les morilles, peut-être sur 500, 1000 mètres carrés, pour avoir un petit approvisionnement plus. Et après, on verra. Mais c'est pareil, en extérieur, t'as d'autres champignons que tu ne peux pas faire pousser à l'intérieur. T'as des coprins, les agarics blaseimeriles, qui sont les cousins un peu latins, tu vois, du champignon de Paris, qui sont vraiment exceptionnels au niveau qualité et goût. Mais encore une fois, c'est d'autres processus, etc. Donc, enfin, je peux pas tout faire.
Donc, pour l'instant, si on reste focus entreprise, la question maintenant, c'est la morille, l'enjeu. Les 6 variétés que tu vends aujourd'hui, tu les maîtrises. T'as quelques-unes en plus, voilà, que tu testes. T'as la morille aujourd'hui qui a un avantage, c'est que c'est une utilisation extérieure. Donc, ça veut dire que ça te libère aussi de la place en intérieur pour optimiser ta production et ton chiffre d'affaires, parce qu'en clair, ce qui risque de t'arriver, c'est que c'est quand même des volumes qui sont élevés quand on démarre, qu'on n'a aucun client, mais dans 2 ans, tes 200 kilos, tu vas les vendre, parce que vu les marchés que tu fais, le bouche-oreille qui est en train de prendre, et que dans le coin...
On a fait une projection à Valentine d'ici moins d'un an.
T'as pas de concurrence frontale pour l'instant, on va dire
J'ai une élève que j'ai formée.
Ah, d'accord.
Alors, qui est de Tarbes, enfin une cinquantaine de kilomètres, mais elle est pas rentrée complètement dans le modèle. Je fais tout, tu vois. Il y avait encore du substrat acheté, etc. Donc, enfin, je la considère pas réellement comme une concurrente, bien qu'elle fasse des champignons que moi aussi je fais. Mais déjà, j'ai même pas besoin d'aller sur Pau pour vendre, donc on n'est pas dans la même zone. Avec Valentine, on s'est posé la question, mais pour l'instant, on reste local, on aime bien le local, hyper local.
Mais c'est la technique de... Chacun après voit midi à sa porte. Bon, quand on parlait de reprendre le facturier, de commercialiser ses produits, il faut avoir effectivement une compétence commerciale, si on veut faire de la vente directe, sur une part importante sur l'exploitation. Dans ton cas, toi, ça a été de démarrer direct tout au particulier, pour les salariés professionnels. Mais l'idée, c'est toujours de démarrer quand on a la chance de faire des petits volumes et d'y aller progressivement, puisque là, l'idée, c'est que si je fais mon unité de production de tant de mètres carrés, ben, c'est tant de volume, je sais ce qui va se passer. Donc, après, j'assure mon développement en escargot, en cercle concentrique, autour de chez moi, le moins de logistique possible, et je commence à étendre en fonction de la montée en volume. Donc, mes 200 kilos, on va y arriver bientôt, se posera la question du développement. Et donc, moi, j'ai une question dans le modèle d'affaires. En général, ce qu'on essaie de faire quand on essaie de reprendre en main sa commercialisation, quand on fait des bovins, de la volaille, etc., enfin, c'est qu'on vend aux particuliers,
ouais.
Sur les marchés, en vente directe, et après on vend à des revendeurs avec toujours sa marque, parce que c'est ça l'histoire de maîtriser sa commercialisation, parce que souvent les gens pensent que la vente directe c'est qu'aux particuliers sur les marchés. Non! Vente directe, c'est un intermédiaire maximum. Si je vends un magasin avec ma marque, je suis toujours en mode vente directe. À part que je laisse une marge à un commerçant pour faire le boulot que je me tape sur les marchés, et ça me permet de renforcer ma notoriété, de faire des volumes.
Ouais.
Donc, est-ce que tu penses qu'à terme, d'avoir quelques professionnels bien pensés qui peuvent être des relais d'image ou de croissance volume, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages dans ton futur ou pas?
Alors, ben là, on a 2 visions différentes avec Valentine. Valentine a cette vision que tu proposes. Enfin, non, c'est plutôt moi qui ai cette vision que tu proposes de vendre des gros volumes sans être en contact forcément avec les gens. Tu vois, enfin, ça va, tu vois, mais moi, je suis pas quelqu'un qui va vers les gens, etc. Valentine, elle adore être sur les marchés.
Introverti.
Etc. C'est ça. Et donc, c'est possible de faire ça, mais Valentine préférait qu'on continue à vendre tout en direct, Mais bon, si les volumes augmentent, forcément, on n'aura pas la possibilité. Donc, il faudra soit passer par la solution que tu proposes, soit la solution que je propose à Valentine, qui est en place, mais que nous n'avons pas encore activée, étant donné que nous n'avons pas les volumes, c'est de vendre par Internet. Parce que par Internet, tu fais un site. Donc, alors, pour les champignons frais, ça se fait. C'est moins facile, un peu plus coûteux, mais pour les champignons de sec, ah c'est très bien.
Ah c'est
un produit qui est léger et qui part tout seul par la poste.
Bah oui.
Donc, on va plutôt s'orienter vers une vente, encore une fois, en direct, VS une vente locale. Enfin, on va passer plutôt par Internet, si on a du produit à vendre. Moi, c'est ce que j'ai envie de mettre en place, mais après... voilà, tu vois, si tu fais une, on va dire, pas une usine, mais une grosse ferme à champignons, même Internet ne pourra pas absorber tout le volume, voilà.
Ok, alors, effectivement, moi je pensais avec la gamme de champignons que tu as, avec l'originalité de ces champignons, avec le gustatif que ça éveille, moi je pensais à peut-être, tu vois, 2-3 restaurateurs plutôt haut de gamme, qui puisse être en capacité de faire un peu de volume et qui puisse être capable de le mettre dans des menus particuliers ou sous mode traiteur ou des mariages ou autre, j'en sais rien, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est des champignons, c'est très original, c'est très très bon, c'est très sain en termes d'alimentation. L'autre jour, Valentin a fait un risotto champignon, c'est super bon. Enfin, etc. Et puis le champignon, je constate que le champignon de Paris, qui est le champignon quand même en gros volume, ils se sont quand même très modernisés, je trouve. Ils ont revu un peu leur image. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en restauration, de plus en plus, quand même, on voit dans les restaurants les sauces aux champignons de Paris, les soupes aux champignons, les sauces aux cèpes. Enfin, on sent que le champignon revient un petit peu, comme il a toujours été sur la table des Français, mais on sent un petit peu un retour. Et est-ce que des vrais restaurateurs, des cuisiniers un peu haut de gamme, qui soient en capacité de bien parler de ton produit, est-ce que ça peut être une piste?
Ouais,
comme ça, à la marge.
Ouais, ça peut être une piste. Mais pareil, on a décidé de pas le faire parce que on veut maîtriser notre commercialisation d'un point de vue temporaire. Si on fait affaire avec un restaurant, il va nous dire le lundi, j'ai besoin de 3-4 kilos de champignons. Le jeudi, j'ai besoin. Et tu vois, et généralement, c'est pas des B2B qui vont être réguliers dans l'approvisionnement. Des fois, ils vont en avoir besoin de plus, des fois, ça va pas être aux mêmes horaires, des fois, il va falloir les dépanner. Et globalement, là où on est positionné, on n'a pas de... Ah si, il y aurait Cercasté qui a une quinzaine de kilomètres, mais on n'a pas de restaurant vraiment local, genre à Saint-Armand
ou à 10 kilomètres. Par contre, effectivement, je pense que ça, des professionnels... moi, je voudrais peut-être des professionnels aussi traiteurs qui sont plus proches d'ici ou autres, ou en tout cas des professionnels qui fonctionnent un peu où tu inverses le rapport, c'est-à-dire que tu es un peu à la criée. C'est-à-dire que c'est toi qui annonces ce que tu as chaque semaine et les volumes, et lui, la semaine suivante, je dis n'importe quoi, hein, lui cale ses menus où il remet dans des prestats ces champignons-là avec un minimum de commandes. C'est-à-dire qu'en gros, il s'adapte. Ce qui devrait être le cas aujourd'hui, c'est qu'historiquement, on faisait de la cuisine en France. En fonction de l'évolution des saisons, on faisait de la soupe à tel moment parce qu'on a la peau pas chère. Enfin, on recuisine et en cuisinant, on utilise des opportunités de saison et de produits un peu en fonction de l'arrivage.
Ouais, non, mais tu as 100% raison. Mais moi, dans mon raisonnement, je me dis, ce type de resto, ça va être plutôt des restos bistronomiques. Mais tu vois, si tu vas dans... Alors, si tu veux vendre tes champignons chers, techniquement, il faut aller vers des restos haut de gamme, tu vois. Si tu vas vers des cuisines centrales, etc., ils vont prendre du volume.
Ah non, c'est pas possible, je suis champion de Paris. Là, c'est champion de Paris.
Voilà, tu vas pas vendre ça très cher. Et du coup, je me dis, ces restos haut de gamme, ils vont pas être intéressés à la criée, tu vois. Ils vont dire, je fais un plat qui est excellent où il me faut du Nameco dedans.
Voilà.
Toutes les semaines, je veux 2 kilos de Nameco. Après, en vrai... C'est pas compliqué à faire d'un point de vue régularité, mais c'est juste qu'on trouve que c'est pas intéressant par rapport au déplacement,
mais à la logistique
et au volume qui nous demande.
Alors par contre, peut-être que ta piste, tu parlais de sécher, parce que gros avantage du sachet de l'expédier par internet, ça pèse et vu les prix de la poste et des colis Simo qui coûtent une blinde, par contre, peut-être le sécher, ça peut intéresser les restaurateurs qui t'achètent des grands conditionnements de sec, qui eux, t'achètent ça une fois, tu livres franco de port, et eux, après, ils en ont pour plusieurs mois.
Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais généralement, les cuisiniers préfèrent travailler avec des champignons frais. C'est ce qu'on a eu comme retour, en tout cas.
Ok. Donc, on voit le modèle. On voit le modèle de l'unité de production qui, aujourd'hui, va pratiquement arriver l'année prochaine.
À maturité, ouais. Ouais, moins d'un an.
Donc, on va passer à une autre partie qui concerne l'autre pendant de ton activité, un petit peu comme moi j'avais présenté l'autre pendant de mon activité d'accompagnement et de formation. Donc là, toi, tu as développé une chaîne YouTube Cultiver les champignons, tu es présent sur les réseaux, sur YouTube, et tu as un format où tu présentes la production. En même temps, ça revient à notre objet de ce qu'on essaie de développer dans le podcast, c'est on essaie de donner la parole à ceux qui agissent, qui pratiquent, qui expliquent ce qu'ils font, leurs erreurs, leurs réussites, et qui ont une vraie réflexion aussi un peu générale dans le contexte économique, dans le monde dans lequel on vit. Mais ils sont acteurs et ils sont des faiseux. Donc toi, tu essayes de former plutôt des particuliers qui peuvent devenir après peut-être pro.
Alors, voilà. J'ai commencé à former des particuliers. Et dans les particuliers, il y avait des pros. Donc, j'étais pas. Enfin, voilà, je formais des pros comme des particuliers. Et en fait, là, ça s'est complètement reviré. Et globalement, on est plutôt sur une majorité de professionnels, même si je continue à faire quelques offres pour les débutants. On va dire que c'est plus mon cœur de métier, quoi. Maintenant, c'est vraiment les pros, tu vois. Genre, moi, j'évolue, ils évoluent avec moi. Enfin, je préfère, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue pédagogique. Tu vois, tu rentres dans des détails que tu peux pas forcément rentrer dedans avec des débutants.
Alors,
quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette activité-là, on peut pas dire que là, tu as démarré à un groupe 1 ou une étape 1 avec, comme toi, les gens débutés, et maintenant, tu as un groupe 2 où ils sont, comme toi, en place, et c'est presque un groupe, c'est un club.
Ouais, on veut dire
parce
ça,
que
ouais.
Finalement, j'ai presque envie de dire, tu as un club d'un côté et après des nouveaux rentrants en formation. Tu as presque deux niveaux.
Alors, en vrai, il y a trois niveaux. Tu as les débutants, genre formation débutant. Ouais. Après, tu as le niveau 2 qui est quand même connaître tout ce qui est labo, moi j'estime. Ouais. C'est une formation beaucoup plus technique. Et après, tu as niveau 3 qui est formation plus business, en vivre, faire des sous avec les champignons.
Voilà. Et là, ouais. C'est plutôt finalement un club de producteurs.
Oh. Ouais, on peut le voir comme ça. Après, t'as pas tout le monde qui est. Tu vois, t'en as qui s'inscrivent en pro et qui sont débutants, mais ils apprennent quand même beaucoup plus vite dans les interactions que si tu avais des débutants. Encore une fois, le milieu, tu vois, si moi, quand j'ai commencé, j'avais été dans un milieu où des gens avaient déjà fait des choses que je veux faire, ben tu progresses beaucoup plus vite.
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, si tu avais eu Andreas comme coach en chaîne YouTube en 2000, donc avant 2020, en 2018, 2019, j'estime que là, la progression.
Oui, forcément, mais j'avais pas de coach. C'est pour ça que moi-même, je me suis auto-coaché, tu vois, pour arriver jusque-là, quoi.
Donc, gros. Les intérêts de cette approche. Donc ça, c'est une activité que tu vois comment en termes d'évolution. Tu as toujours des demandes, tu cherches à développer.
Oui. Alors, j'ai toujours des demandes. Paradoxalement, j'ai de plus en plus de demandes, mais j'ai de moins en moins le temps de le faire parce que j'ai... Enfin, tu vois, genre, j'aime vraiment bien la production, tu vois, genre avoir les mains dans le concret et tout, alors que quand tu fais de la formation, t'es beaucoup sur l'ordinateur, etc. Donc, après, je me verrais pas l'abandonner complètement, parce que c'est quand même un truc que j'aime, mais je vais pas grossir en ce sens, je vais plutôt faire grossir ma production, c'est ça que j'ai envie à terme, quoi.
Oui, sachant que de toute manière, le gros avantage que tu as sur ta chaîne YouTube, sur cette activité-là, c'est que tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux dire oui, tu tu peux dire non.
Oui.
Tu as des gens voilà, qui sortent aussi du parcours, donc tu as quand même du turnover. Et est-ce que tu as de la concurrence sur ce secteur d'activité?
Oui, j'ai de la concurrence.
Il y a d'autres chaînes sur là-dessus?
Oui, il y a une chaîne qui est un concurrent direct. Mais c'est très sain parce que c'est comme dans la production, en fait. Quand on a un concurrent et qu'on n'a pas de monopole, ça nous oblige à faire un produit qui est de meilleure qualité à chaque fois. On se concurrence envers la qualité.
Et lui, il est plus production ou plus formation?
Je peux pas en juger. Je pense qu'il est comme moi, honnêtement.
Comme toi. D'accord. Et donc là, pour l'instant, donc, ben, toi, c'est la production de ton objectif, c'est ce qui te fait kiffer. Tu as encore des marges de progrès. Mais enfin, si l'année prochaine, si en 2027, on est à nos 200 kilos en unité de production fermée ici, et dehors, imaginons que le temps que t'es mori se mette en place un an après, ça veut dire que toi, aujourd'hui en production, t'as fait le tour dans 18 mois, t'as plié ton potentiel volume ici.
Ouais, complètement. Même la mori, c'est une saison, c'est globalement 6 mois. Donc si je fais 2 saisons, je pense que j'atteindrai le niveau. Donc d'ici un an, en effet, la ferme, là, elle a produit son maximum. Donc il y a deux solutions qui s'offre à moi. La première, c'est je reste avec ces volumes, je ne progresse pas dans l'agrandissement de la production. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est j'agrandis un peu. Tu vois, genre, Valentine a pensé mettre, tu vois, à l'arrière, on peut mettre 2-3 containers. Donc, globalement, on pourrait doubler, ce qui est déjà pas mal, la taille de la ferme. En la doublant, on est au maximum en termes de temps plein. Enfin, tu vois, si on fait plus que doubler, on est obligé d'embaucher des gens. Et même en doublant déjà, ça fait énormément de travail.
Alors, si on s'arrête là en termes de modèle, ça veut dire que je peux doubler, faire 400 kilos de champignons par mois.
Mais c'est un mauvais modèle dans le sens où en fait, tu produis peu. 400 kilos par mois, c'est pas beaucoup. Donc, tu dois tout vendre en direct. Mais si tu vends tout en direct, 400 kilos, c'est beaucoup à vendre en direct. Donc, en fait, c'est un mauvais modèle parce que c'est un modèle intermédiaire. Il vaudrait mieux un modèle où je suis plus gros. Exemple, je fais 2-3 tonnes par mois et je vends uniquement en B2B. Tu vois, en fait, c'est un switch. Genre, c'est vraiment un switch.
Oui et non. Parce que si on raisonne d'un point de vue purement raisonnement de gestion, optimisation, j'ai mon lieu, je peux aménager avec un permis de construire, deux containers, adossés, j'ai la place de les installer, tout ce qu'il faut. Donc, zéro charge fixe en plus, deux branchements électriques et des bambous autour, une déco autour. J'ai mon labo de production de mycélium, j'ai tout, j'ai là où je fais mes ensachages, rien ne bouge.
Ouais.
Finalement là, j'ai juste à y mettre quelques heures de main d'œuvre routinière pour faire les tâches de routine qui ne nécessitent pas, je dirais, une compétence pointue comme la tienne.
Ouais, genre la fabrication de substrat et les récoltes par exemple.
Et les préparations de commandes.
Ouais. Non, mais en vrai, c'est une bonne idée, mais honnêtement, j'ai pas réfléchi le calcul.
Et donc, juste pour finir, si tu fais ce calcul-là demain, n'aie pas peur sur les 400 kilos en vente directe.
Oui, dans le cas où j'embauche quelqu'un, effectivement.
Parce que tu mets un peu de main-d'œuvre, charge fixe très faible, optimisation de l'outil déjà existant, un peu de charge variable avec la main-d'œuvre qui va te préparer le ramassage de balcon. Et vous avez le temps d'ici 18, donc là c'est 18 mois, ça fait 24 mois.
Ouais.
Vous avez le temps, dans 2 ans, de développer votre clientèle.
Ouais, mais tu vois, en fait, on resterait bloqué parce que si on prend quelqu'un globalement, il va nous coûter un SMIC. Mais un SMIC plus les charges, tu peux compter 2000 euros par mois.
Non, mais là, peut-être que ce format-là n'est peut-être pas le format adapté à la rubrique suivante, qui est de se dire, est-ce que tu prends quelqu'un qui peut être aussi quelqu'un qui a déjà du business à côté, qui peut venir faire certaines heures.
Ça peut se faire. Franchement, il faut que je fasse.
C'est juste pour s'arrêter. C'est juste pour pour là, pour notre exemple, pour notre audience, c'est questionner et envisager l'optimisation. C'est-à-dire que moi, pour moi, aujourd'hui, avec l'outil que tu as...
Toi, tu as un salarié, toi ?
Moi, je prends quelqu'un, oui, mais qui a une activité de
Tu peux dire rapidement combien ça te coûte, combien de temps il travaille ?
Je le prends à l'heure.
OK.
Parce qu'il est dans un... C'est en mode type groupement d'employeur.
OK.
Donc, je ne suis pas employeur direct.
OK.
Ou ça pourrait être un auto...
C'est quoi, du portage salarial, un truc ?
Ouais, voilà.
Ça ?
Et ça pourrait okay. être demain un auto-entrepreneur qui vient te faire de la prestation.
Et il te facture combien de l'heure ?
Ah ben, c'est plus cher. Aujourd'hui, c'est le double que le prix du SMIC.
Ok, donc 20 euros de... 20, un peu plus
de 20 euros. Plus de 20 euros. Plus, 20, plus 25 euros de l'heure.
Combien il te fait d'heures par...
Ah ben, c'est quand j'ai besoin. Donc là...
Ok, ouais, c'est pas mal.
Tu vois ? Enfin, c'est juste pour ramener le raisonnement qui est que l'heure de main-d'œuvre, il ne faut pas que la main-d'œuvre dans ton modèle à 400 kilos, ça soit des charges fixes. C'est là où je fais une grosse différence entre la main-d'œuvre charge variable, qui est de la main-d'œuvre occasionnelle régulière. Tu peux très bien utiliser un TESA. C'est les chèques occasionnels agricoles qui sont exonérés de façon très forte au niveau des charges sociales okay. et qui permettent d'être 3 mois consécutifs en production.
Okay.
Tu peux prendre un auto-entrepreneur, etc. Donc, il ne faut pas que ça devienne charge avec. La seule charge fixe, si tu dois passer à 45 kilos, c'est finalement l'amortissement de ton conteneur ou de tes déconteneurs que tu amortis sur 5 ans
ouais.
ou 6 ans et terminé. Par contre, les 400 kilos, doubler ta vente directe, aujourd'hui, tu dois la doubler là, maintenant, dans 3 mois, tu n'y arriveras pas. Dans 2 ans.
Oui, dans 2 ans, ça se fait.
Voilà, très bien. Donc, les projets, on verra la suite.
Tout à fait.
Par contre, donc là, on va aborder aussi ton rapport un peu. Tu en as déjà tout à l'heure, tu as abordé la question de faire tes recherches,
ouais.
faire un petit peu ce que tu avais envie de t'imaginer, ton utopie, tes ouais. idées, ta recherche développement.
C'est le bon mot, l'utopie.
Voilà. Donc, c'est quoi ton rapport à la liberté ? Comment tu vois, toi, les choses, l'évolution de ton modèle et de ta façon de vivre ?
Eh bien, au début, tu vois, j'avais peut-être une vision un peu que je qualifierais aujourd'hui enfantine de « je fais ce que je veux quand je veux », tu vois. Donc, c'est-à-dire, ben, j'ai envie de travailler, je travaille, j'ai pas envie de travailler... je ne travaille pas, etc. Une vision, en fait, qui était un peu désengagée des actes, tu vois. Bah là, je n'ai pas envie. Donc, ça, d'ailleurs, ça se retrouve beaucoup, je trouve, dans les couples aujourd'hui. Tu sais, nous, bon, je ne sais pas si tu connais, tu sais, les applications genre Tinder, etc.
Non,
tu sais,
désolé, je suis marié.
Non, mais je sais pas, enfin, peut-être tes enfants t'en parlent. Enfin,
oui,
bref,
oui,
c'est des trucs où tu scrolles et
oui,
tu peux choisir.
Bien sûr, il m'en parle. Voilà,
tu peux choisir une personne dans un catalogue, etc. Et ça, en fait, c'est tellement popularisé, etc., que les jeunes et ma génération
oui,
compris,
génération,
un peu moins, mais les générations d'après encore plus, enfin d'après, et du coup, on s'engage jamais. Et bien, pour le boulot, moi, c'était un peu ça. Tu vois, je voulais pas m'engager, d'où le. Bon, je me suis engagé avec le GAC et tout, mais dans le fond des choses, je voulais être vraiment tranquille. Et aujourd'hui, pour moi, la liberté, je considère que c'est le fait de choisir tes contraintes, tu vois. La récolte des champignons, si tu veux qu'ils soient de très bonne qualité, c'est tous les jours. Donc, c'est le week-end aussi.
C'est une astreinte comme l'élevage.
Et c'est un choix. Et franchement, je suis content de le faire, tu vois. J'ai choisi... ce que je m'impose. Voilà. Ça peut se résumer à ça, ma vision de la liberté.
Oui, c'est-à-dire qu'en clair, la liberté, c'est aussi une gestion de ses contraintes et comment tu articules tes contraintes, ton équilibre familial, ton équilibre professionnel, hier, dans le podcast avec Philippe Grégoire, on parlait en conclusion, il disait... qu'il faut se former toute sa vie. Et ça, je te garantis que, surtout quand tu vas arriver autour de 50 balais, tu as intérêt de réaccélérer sur le cognitif parce qu'il y a besoin sans arrêt de s'ouvrir, de comprendre. Et on a l'impression, des fois, de comprendre des choses en se disant « Mais comment ça se fait que je n'ai pas compris plus tôt ?»
Je l'ai tout le temps. Genre, tout le temps, je suis en train de me dire « Ah ben, t'es con sur ça. »
Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans... Dans ton parcours, et puis aussi, tu as dépassé la trentaine, tu t'es installé dans la vie avec, avec Valentine, des projets de, voilà, de construction ensemble, de choses, d'engagement, voilà. Et donc, avant toute cette structuration, cet engagement et cette construction, c'est vrai que on parlait d'utopie. Alors, je ne sais jamais trop la différence entre le côté idéaliste et utopique. Je ne sais jamais trop.
Je ne saurais pas te dire.
Faudrait regarder sur la définition, voilà. Mais c'est vrai que tu avais peut-être ce côté-là, un peu idéaliste, utopie, enfin voilà, qui se mélangeait la sortie des études, où tu avais un peu ça en tête.
Je crois qu'une utopie, ce n'est pas réalisable.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je pense que c'est ça. Peut-être et ça. Être idéaliste, c'est un idéal et t'essaies
oui,
de l'atteindre.
Ouais, ouais, voilà. T'essaies de l'atteindre. Ouais, ouais, donc t'as aussi, je pense, une personnalité, mais ça c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalité avec la prochaine BTI. Moi, j'ai découvert sur le tard ce que j'étais, puisque je subissais des fois mes propres assauts et ma propre personnalité qui, des fois, pouvait des fois gêner mon entourage ou autre.
Comme quoi, par exemple ?
Eh bien, c'est un de mes traits de caractère, la détermination.
Genre tu veux faire un truc et c'est comme ça.
La surdétermination. Non, ça c'est l'entêtement ou c'est plutôt être têtu. Je dirais la détermination précoce, c'est-à-dire de se dire gamin. Par exemple, on est très proche à ce niveau-là. On a des caractères, un profil très proche. Gamin, tu t'es déterminé le projet à peu près. Tu as visualisé le projet à 50 ou à 60 ans. Et quand t'es gamin, que t'as 10 ans, ça te paraît, les gens qui ont 50 ans, c'est des vieux. T'as sur-visualisé.
Alors, pour être honnête, j'y suis pas encore dans mon idéal, du coup. Parce que, alors, les champignons, j'adore. Ça me passionne, tu vois, il y a le côté scientifique et tout. Mais quand j'étais plus jeune, ce que j'aurais vraiment voulu faire, c'est faire des céréales, tu vois. Genre, avoir...
La saison est bonne, tu vas avoir des terres à reprendre, là, vu 4 ans de difficultés conducteurs, ouais. Des fermes à reprendre.
Non, mais après, en vrai, là, c'est, pour le coup, c'est des modèles que j'ai étudiés. Tu vois, genre, t'as les modèles conventionnels et t'as les modèles dits de conservation. Mmh. Tu vois, c'est des modèles où, en fait, ils vont plus, en fait, labourer la terre. Si tu veux, ça va être... C'est vraiment pure agronomie. Tu fais un enchaînement de plantes sur plantes. Le sol doit être tout le temps couvert. Il ne doit jamais être labouré. Et donc... dans ce modèle-là, tu ne laboures plus la terre. Donc, tu n'as pas besoin d'un tracteur puissant, tu as besoin d'un semoir direct et d'un pulvée. Et tu économises à l'hectare 60% d'essence. Au début, quand tu lances ce modèle, que tu passes de conventionnel à ce modèle de conservation, tu perds en rendement, mais dès la deuxième année, tu regagnes. Bref, ça, ce serait mon utopie. Plus tard. Tu
Par
vois,
contre, la petite parenthèse sur ce modèle-là, ce modèle est jouable s'il y a de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème qu'on a avec le système français où on nous a poussé à nous spécialiser avec les aides-PAC qui ont été favorables, et c'est les céréaliers, comme on l'a vu dans le podcast avec Philippe. C'est
les comment on le verra ? Parce que celui-là va sortir.
On verra, voilà. Voilà quand on le verra, Philippe, ouais. Où les céréaliers ont pris la main depuis les années 50 sur l'agriculture française au sein de la corporation professionnelle pour essayer de faire de la céréaliculture partout, au détriment de l'élevage. Le système idéal... Qui permet la fertilité, la valorisation des sous-produits, qui maintient certains espaces de zones intermédiaires, c'est la polyculture élevage. C'était juste une parenthèse.
100% d'accord.
Donc, ça sera peut-être ta deuxième carrière, champignons et autres productions. Qu'est-ce que, dans les rubriques un peu récurrentes, question sur le prix, un peu le prix du réel, un peu ta... On a senti déjà les erreurs. Voilà, la plus grosse erreur ou les erreurs que tu penses avoir commises à ton jeune âge.
Je dirais d'avoir signé donc ce GEC sans premièrement connaître réellement les personnes. Donc c'était pas du tout des profils avec qui on devrait s'associer. Et ensuite de pas regarder ce que tu signes. Parce que finalement, je m'en suis bien sorti, mais en réalité, juridiquement, il avait le droit de me demander 33 000 euros.
Eh oui.
Et il m'a demandé juste la perte de quand je suis rentré dans le GAEC, donc j'ai dû payer, c'est une erreur, à 1700 euros, tu vois,
oui,
qui n'est pas si cher payé.
C'est-à-dire
quoi.
C'est une proratisation, en gros, tu t'es payé une formation à 1700 euros.
C'est ça.
Ce qui est tout à fait dans les prix.
Oui, ouais, c'est vrai. Hein? Si on le voit comme ça, c'est, je m'en sors bien, quoi.
C'est un investissement que tu as fait parce que tu as... C'est pas un échec. Parce qu'il fallait que tu le fasses parce que d'où tu partais...
Oui, oui, bien sûr.
C'était, ouais, une méthode, c'était une méthode empirique que tu as utilisée et qui a été nécessaire à la construction de ton modèle.
C'est ça. Dans tous les cas, soit on réussit, soit on apprend. Mais là, j'ai appris en l'occurrence.
Voilà. Nelson Mandela, c'était pas cette phrase-là. Je gagne, c'est la fameuse phrase de Nelson Mandela qui dit « Je gagne tout le temps ». Soit je gagne tout le temps, soit j'apprends, mais c'est bien, je là c'est plus la citation. Bref, le tracteur dans le fossé. Oui, donc sur l'idée de développement ou l'idée qui t'avait semblé, on l'a vu tout à l'heure, hyper intéressante sur le papier, puis en réalité qui était un peu compliquée, comme par exemple une des fermes en association, etc. Ouais. Voilà. Et après, est-ce qu'il y aurait d'autres...
Oui, 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 il y a une autre erreur. Mais après, voilà, c'est... on fait ce qu'on peut. Hein. Mais au niveau de ma santé, tu vois, genre, j'étais pas du tout quelqu'un qui prenait soin de sa santé. Et si tu veux monter une entreprise, que ce soit agricole ou autre, il faut vraiment prendre soin de sa santé parce que ça demande beaucoup d'énergie. Tu vois, à l'époque, je fumais des cigarettes, je buvais. Bon, voilà, je faisais pas de sport. On fait ce qu'on peut, encore une fois, je juge pas, mais... ça m'aurait fait du bien d'avoir été mentoré en ce sens là aussi, tu vois.
Je trouve très intéressant cette partie là que tu abordes ça de façon très simple, car on pourra l'aborder peut-être, il faudra qu'on le travaille dans un futur podcast. J'ai moi synthétisé dans les clubs d'entrepreneurs ou de créateurs d'entreprises que j'anime, plusieurs mentors et entrepreneurs américains sur l'autodiscipline.
Oui. Et bah, sur, vas-y, hein, parlons-en. Hein.
Sur l'autodiscipline, sur... bon, on parlait de Tim Ferriss sur démarrer petit tout en voyant grand. Hein, sur ce...
Tu fais toi-même des choses pour ta discipline, des choses que tu t'imposes volontairement dans ton espace de liberté?
Je pense que oui. J'ai jamais fumé.
Ouais.
Et sur la détermination de projet et la notion de contrôle de soi. C'est-à-dire qu'on a deux profils. Et ça, c'est avec je me suis toujours passionné de psychologie humaine. En BTS, j'ai eu la chance d'avoir un intervenant sur les programmes neurolinguistiques. Ensuite, j'étais abonné à une revue plutôt féminine avec mon épouse qui s'appelle Psychologie Magazine, que j'ai dévoré des bouquins pendant un an. Le MBTI maintenant, tout ce qui tourne autour du cognitif. Et donc donc l'autodiscipline, ou en tout cas le contrôle de soi. On a des personnalités tous les deux où on aime avoir le contrôle sur les choses.
Ouais.
Et donc, après... ta personnalité, très rapidement, tu as repris le contrôle sur toi. Parce que de toute manière, c'est ce profil-là, très rapidement, reprend contrôle sur soi. C'est ton profil. Moi, il se trouve que je l'ai senti très intuitivement, très jeune, de ne pas me laisser embarquer par des addictions. Par exemple, les addictions, l'hygiène de vie, bien manger, faire de l'activité, se nourrir intellectuellement. Lire des... Tout. Par exemple, un des points, 17 points, moi j'ai ciblé, j'ai un petit laïus là que je peux présenter, qui est en 17 points le créateur d'entreprise, entrepreneur, des 17 points de travail que tu dois faire. Et entre autres, sur la lecture, par exemple, c'est de s'astreindre à lire tant de pages à peu près par mois ou par jour, d'avoir un objectif à ce niveau-là. C'est les addictions. C'est
les addictions, physique. Tu vois, c'est pas un truc que tu t'imposes. Tu fumes pas, tu vas pas te dire je vais pas fumer. Mais par exemple, pour le livre...
Ah mais moi, donc... je me souviens très bien, adolescent, pourquoi j'ai pas fumé.
Mais je veux dire, qu'est-ce que toi, tu fais concrètement que tu t'imposes en termes de discipline? Tu vois, genre, par exemple, alors, moi, par exemple, c'est me coucher tous les jours à 10h du soir, parce que je me lève à 6h,
pareil,
par exemple.
Moi, je me couche maximum 11h.
Ok.
Sauf quand les matins, j'ai des matins, c'est-à-dire qu'en vieillissant, tu le verras, t'as un peu moins d'heures de sommeil. En tout cas, tu peux te lever beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est aussi une transformation dans notre capacité productive, parce qu'à 20 ans, par exemple, à 20 ans, je n'arrivais pas à faire une sieste de récupération l'après-midi. Je n'arrivais pas à m'endormir, j'étais complètement suqué. aujourd'hui, depuis des années, je m'astreins à faire des siestes réparatrices où je sais très bien que ça me remet en forme. Je fais une fin de journée où je peux repartir focus sur 2 heures de boulot avant. Parce que le travail, c'est toujours pareil. C'est l'intensité, l'efficacité du travail à l'heure produite. C'est pas faire des heures pour des heures.
Oui, ça sert. C'est,
parlons d'heures productives. Parlons d'heures efficaces. Donc, essayons de chercher toujours à optimiser les investissements, la main d'œuvre, etc. Donc, ça veut dire que, par exemple, je me lève, je dois me lever à 5h30 ou 5h40 pour des marchés, etc. Ça veut dire que maximum, tu vois, à 10h30, je suis au lit. Et certainement qu'il y a des jours où si je suis fatigué, parce que la semaine, j'ai eu des semaines où je me suis levé tôt, non, ça veut dire qu'il y a faudra que des après-midi, je puisse avoir 2h, 2h30 où je ne bouge plus, où je fais des siestes, etc. Donc, parlons des vraies choses. L'activité physique, qu'est-ce qui est passionnant aussi dans nos activités agricoles, c'est que moi, je n'ai pas d'abonnement à la salle de sport.
Oui.
Tous les jours, je fais pratiquement de l'aliment, je lève 500 kilos de sacs par jour, plus d'activité physique. Donc, on a cette discipline, mais pas forcément non plus. Je vais chez l'ostéopathe au moins 2 fois par an. Etc., etc. Donc, il y a une autodiscipline, c'est-à-dire que c'est du... Ça se voit pas.
Ouais.
Pendant 20 ans, ça se voit pas. Ou 25 ans. Et pourquoi tu as des gens, à un moment donné, tu te rends compte, ils sortent du bois sur des projets, sur une performance, parce que pendant des années, tu les as pas vus, mais ils se sont entraînés, ils ont travaillé petit à petit.
Ouais, le process. Ouais.
Et surtout la répétition. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas des grands coups, c'est de la répétition de la besogne, entre autres. Donc, ta discipline, ça veut dire que toi, tu as fait une espèce de réajustement, mais c'est aussi ta personnalité qui t'a ramené à ça. Donc ça, c'est super. Et donc, l'outil pour toi... que tu aimerais ou que tu gardes ou que tu vas acheter ou que tu vas...
Franchement, bah moi, je suis un peu génération numérique, donc je dirais honnêtement un ordinateur. Parce que en vrai, je fais tout dessus. Je calcule, j'ai mes tableaux sur les coûts de production, j'ai mes connexions Internet, les formations... ça me permet de publier le podcast aussi.
Eh bien sûr.
Tu vois, genre, c'est pas l'outil de l'agriculteur par excellence, je sais bien, mais c'est un outil qui est devenu indispensable pour moi au-delà de l'agriculture. Après, je peux te donner un outil qui est purement agricole, et là, je dirais mon tuyau d'arrosage, tu vois, parce que sans eau. Tu ne peux rien faire pousser. Pas de plantes, tu ne peux pas faire pousser des cochons.
Pas d'animaux.
Tu ne peux pas faire pousser de champignons non plus.
Le chien dent, qui est le nom de notre podcast. Là, j'en ai parlé à un copain. Il va voir le premier podcast. Il m'a dit juste un mot, parce qu'il est dans le monde agricole. Increvable. On ne l'avait pas dit ce mot.
Ouais.
Hein? C'est que l'activité de production agricole... l'activité d'entreprise, il faut avoir une capacité de remise en question. Tous les jours, tu prends des claques. Il y a un côté effectivement increvable. Il faut avoir une hygiène de vie. Il faut avoir une capacité à accepter...
Souffrir un peu parfois.
Ouais, et être dans l'acceptation du vivant, du retournement de marché.
Donc, paradoxalement, pour nos profils, être dans l'agriculture, ça veut dire... accepter de ne pas contrôler.
Exactement.
Donc, est-ce que c'est pas un peu paradoxal qu'on ait des profils comme ça et qu'on soit à la fois dans l'agriculture?
Oui, mais tu remarqueras les types de productions qu'on réalise. Ce sont des productions à contrôle.
Oui, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que le champignon
et
intérieur,
c'est
ça se contrôle.
Et c'est pour ça que quand tu me parles de tes céréales, j'ai un grand doute. J'ai un grand doute sur cette production-là que tu pourrais faire à grande échelle.
Non, à grande échelle, je sais pas, mais en vivre, en tout cas, c'est un truc que j'ai dans le cœur et que pour l'instant, je ne lâche pas. Tu vois.
Et ça veut dire que là, par contre, la notion de contrôle, elle sera beaucoup plus aléatoire.
Oui, 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 clairement. Clairement. Mais en vrai, j'y travaille, tu vois. Parce que des fois, tu fais ton agenda, je dois faire ceci, cela. Et bien, quand j'arrive pas. Ben avant-hier, tu me dis, on fait un podcast avec Philippe, donc, qui est ça, le numéro 3. Je te dis, et bien là. Bim, pas de contrôle. J'avais ma journée de prévu, où je devais faire des trucs, eh bien, j'accepte de ne pas contrôler. Et du coup, je deviens souple et j'accepte qu'on fasse hier donc le podcast numéro 3.
Non, mais sur les résultats, sur les céréales, c'est l'autre sujet, on en reparlera. C'est une culture, si tu veux, sur laquelle tu as un résultat une fois par an.
Oui.
Et
c'est vrai.
Et je t'annonce direct que tu verras que c'est un autre état d'esprit. Les idées fortes, compétences.
Apprendre à apprendre. Si on ne sait pas apprendre, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si on sait apprendre à apprendre, on peut globalement tout faire et même désapprendre. Donc, on reste hyper souple cognitivement. J'apprends, je ne sais pas moi, à utiliser une fourche. Hein, tu vois, genre, j'ai vraiment pas d'exemple. J'apprends à cultiver un nouveau champignon. J'apprends à intégrer, un atelier de transformation au sein de mon entreprise. J'apprends à réaliser une nouvelle culture en plus. Enfin, apprendre à apprendre, je pense que c'est le truc essentiel.
Eh bien, ça tombe bien. Donc, ça veut dire que derrière, tu vas peut-être nous donner un conseil de lecture, un livre que tu as envie de faire partager, de mettre en avant, puisque c'était un peu notre rubrique qu'on essaie de développer.
Oui. Alors, je vais peut-être pas être très original. C'est un livre sur l'agriculture, alors que j'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, mais qui s'appelle Le sol. C'est l'agriculture, le sol, l'échange, je crois, de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont donc deux agronomes et qui parlent donc des sols pas comme d'un outil neutre dans lequel on irait mettre des plantes, mais comme un véritable écosystème et comment entretenir cet écosystème. Donc ça parle surtout de grandes cultures, mais ça parle aussi d'élevage, etc., avec une vision du terroir genre qui philosophiquement est magnifique. Tu vois, genre, tes cochons noirs, ils viennent de la région, ils ont été sectionnés en Bigorre, ils sont endémiques d'ici depuis longtemps, ils sont adaptés au climat, ils sont adaptés aux plantes, etc. Et eux, ce qu'ils regrettent, c'est qu'on essaie par exemple de mettre certains animaux, certaines cultures dans notre pays, tu vois, plutôt que de prendre localement, tu vois, si tu emmènes des vaches, des Holstein en Afrique, elles vont souffrir le martyr avec la chaleur. Et malgré tout, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Plutôt que de prendre des vaches qui sont un peu moins productives, mais qui sont complètement adaptées à la nourriture, à la saison, etc., et de les faire produire là-bas. En gros, ça revient un peu à spécialiser, terroiriser un peu les cultures agricoles. Bref, je vous conseille vraiment ce livre, il est vraiment très bon, une magnifique philosophie. Moi,
Claude et Lydia Bourguignon, qui ont été chercheurs à l'INRA pendant de nombreuses années, qui ensuite ont été des consultants indépendants et qui ont leur propre labo d'analyse, qui ont été pas mal. Elle, je crois qu'elle est plutôt spécialisée champignons, c'est pour ça mycorhizes, etc.
Je sais pas du tout leur spécialité.
Un des deux qui est spécialisé, hein, et c'est marrant de voir un couple qui a travaillé sur ces questions-là durant de nombreuses années. Pour moi, je pense que nous arrivons à la fin.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est bon pour toi, Andreas?
C'est très bon pour moi.
Je te laisse conclure.
Bah, écoutez, merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. On vous remercie avec Franck. N'hésitez pas, donc, toujours pareil, hein, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker si vous avez apprécié, à nous mettre aussi, s'il vous plaît, 5 étoiles si vous avez écouté ça sur une plateforme de podcast. Et n'hésitez pas en commentaire à nous dire. Si vous avez des intervenants peut-être en tête ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde différemment dans le podcast, n'hésitez pas à nous donner votre avis. On l'écoutera avec plaisir. En attendant, Franck, je te dis à dans 2 semaines pour le prochain podcast et merci à tous.
Salut Andreas.
Salut Franck.